Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de Cinémag est heureuse de vous souhaiter une très belle année 2018. Et pour entamer cet an neuf, je vous propose de redécouvrir une fin de film, l'une des plus belles de l'histoire du cinéma, qui est aussi l'un des plus beaux passages au Nouvel An. Nous sommes en 1989, et si vous aimez la comédie romantique, vous avez déjà entendu ceci.
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi.
Je vais plutôt te dire que je m'en vais.
Alors, ça te laisse froid, tout ce que je te raconte?
Tu m'excuseras, Harry, je sais que c'est le réveillon. Et je sais aussi que tu te sens seule, mais de là à ce que tu débarques, que tu me dises que tu m'aimes, emballé, c'est pesé, il y a des kilomètres. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Bon, alors comment?
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pas comme ça.
Peut-être comme ça. J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes une heure et demie pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussi tôt que possible.
Quand Harry rencontre Sally en 1989, marquait le grand retour de la comédie amoureuse et révélait deux acteurs d'exception qui étaient Billy Crystal et la craquante Meg Ryan qui finissaient par s'avouer leur amour. Le réalisateur, c'était Rob Reiner, quelqu'un qui, entre les années 86 et 90, a fait quatre films cultes. Vous vous souvenez sans doute de Stand By Me en 86, puis ça a été Princess Bride, puis Quand Harry rencontre Sally, puis le célèbre Misery. Alors, qu'est-ce qui attend les cinéphiles drouais pour cette année 2018? Eh bien, nous avons décidé de consacrer notre première émission de janvier au festival Regard d'ailleurs, qui sera sans conteste l'événement de ce printemps. En effet, Filmer le Danemark commence le 21 mars pour s'achever le 18 avril et ce sera la 16e édition de ce festival organisé par Fenêtre sur Film, mais aussi beaucoup de partenaires, au premier rang desquels la ville de Dreux, l'agglomération du pays de Dreux, la région centre, le pôle cyclique et divers mécènes locaux, sans oublier évidemment le cinéma Ciné-Centre et d'autres salles de l'agglomération dont nous vous reparlerons. Le lycée Rotrou et ses sections cinéma sont bien entendu partie prenante de la manifestation. Manifestation qui se déploie chaque année pendant près de 4 semaines et qui, pour chaque édition, est consacrée à un pays différent. Nous n'allons évidemment pas énumérer les pays qui ont été représentés lors des 15 premières éditions. Il faut simplement se souvenir que les dernières éditions de Regard d'ailleurs ont été consacrées à l'Argentine, à la Suisse, à l'Australie, à la Pologne et l'année dernière, en 2017, à la Corée. Nous avons plus de 35 séances qui sont organisées prioritairement à Ciné-Centre, mais aussi dans d'autres lieux comme l'auditorium du lycée Rotrou, la médiathèque de l'Odyssée, les maisons Proximum, même des maisons de retraite et puis diverses salles. Quant à la programmation elle-même, eh bien, elle allie les films du patrimoine à la création contemporaine. Nous avons des fictions, des documentaires, nous avons également des ciné-concerts et de l'animation. Par ailleurs, la manifestation permet le déploiement d'autres activités qui vont faire vivre la ville et l'agglomération pendant près d'un mois à l'heure du pays auquel l'hommage est consacré, c'est-à-dire le Danemark. Ce sont des expositions qui vont être organisées à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, dans la salle d'exposition de l'Odyssée, dans les maisons Proximum, mais aussi un certain nombre d'activités festives, le plus souvent ouvertes à tous, comme divers cocktails, divers repas gastronomiques, divers encas qui sont offerts en particulier par l'association Fenêtre sur Film. Au total, on peut dire qu'aujourd'hui, le festival Regard d'ailleurs est l'une des plus importantes manifestations culturelles de la région centre, puisque pour l'édition 2017, eh bien, nous avons accueilli près de 9000 spectateurs ou visiteurs, si l'on compte le nombre des visiteurs des expositions. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Regard d'ailleurs, de festival ancré solidement dans la ville de Dreux, est devenu le festival de toute l'agglomération drouaise, puisque des villes comme Vernouillet, qui cette année va prendre davantage d'importance encore avec l'Agora et avec la Passerelle, mais aussi des villes comme Garnay, comme Saint-Rémy-sur-Avre, font partie des villes qui accueillent des séances de Regard d'ailleurs. Et puis l'un de nos plus beau succès, c'est d'avoir obtenu l'intérêt de la ville de Chartres, puisque depuis 3 ans, eh bien, aux Enfants du Paradis, une petite partie de la programmation de Regard d'ailleurs est transférée. Et il y a également donc possibilité de participer à Regard d'ailleurs en restant chartrain. De la même façon, le Cinémobile, qui est géré par nos amis et partenaires de Cyclique, va jusqu'à Nogent-le-Roi et propose aux habitants qui sont visités de découvrir au moins un film du festival. Nous venons d'entendre l'un des deux hymnes officiels du Danemark, celui qui s'intitule « Il est un doux pays ». Alors pourquoi ce doux pays a-t-il été choisi ? Eh bien, il était temps, dirais-je, il était temps de découvrir ou de redécouvrir le Danemark. D'abord parce que le Danemark est un pays de tradition cinématographique extrêmement importante, avec de grands anciens. On va citer le grand Karl Dreyer, on peut citer Gabriel Axel, mais on peut également évoquer ce qui se passe aujourd'hui au Danemark, avec notamment deux représentants du cinéma danois qui sont deux des cinéastes actuellement les plus intéressants au monde, même si leurs œuvres sont parfois extrêmement âprement discutées. Je veux parler de Lars von Trier ou de Nicolas Winding Refn. Alors, qui sont ces deux cinéastes ? En quelques mots, nous proposons de répondre à cette question. Que n'a-t-on dit sur Lars von Trier, qui à 61 ans est une des personnalités les plus controversées du petit monde du cinéma, mais en même temps l'un des cinéastes les plus admirés? C'est un personnage tout à fait étonnant que ce von Trier, ancien élève de l'école de cinéma de la Dansk Filmskole, c'est-à-dire la principale école du Danemark. Il a d'abord été l'un des fondateurs du Dogme 95, qui était un mouvement qu'il avait créé avec quelques amis, et qui s'opposait en fait à tout ce qui était règles, recettes du cinéma international. Il s'opposait aux superproductions, aux effets spéciaux. L'idée, c'était qu'il fallait prôner la sobriété, revenir à un style de cinéma direct. Il fallait refuser l'éclairage spécial, donc pas de spot, pas de projecteur. On ne pouvait donc tourner qu'à la lumière du jour ou des lumières électriques qui existaient déjà. Et il fallait même ne pas signer le film à la fin. Et Lars von Trier déclarait « Mon but suprême est de faire sortir la vérité de mes personnages et de mes scènes », sous-entendu, par aucun autre moyen proprement cinématographique, il ne fallait parvenir à émouvoir le spectateur de façon artificielle. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce dogme, même si tous ces principes n'ont pas été respectés de manière extrêmement scrupuleuse, eh bien ce dogme a quand même suscité, fait naître une cinquantaine de films, le premier étant le film Festen de Thomas Vinterberg, et le second étant Les Idiots de Lars von Trier, qui en 1998 fut l'un des premiers scandales de son œuvre, puisque on y voyait des personnages jouer la comédie, ou même d'ailleurs ne pas jouer, entièrement nus. Ce film n'est pas le seul qui est marqué dans la carrière de Lars von Trier, puisque beaucoup d'autres par la suite vont explorer dans son œuvre les zones troubles de l'esprit humain, tout en même temps, tout en travaillant sur les genres. On dira que les films de Lars von Trier sont des films peu confortables, et qui contiennent malgré tout des moments de beauté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je pense en particulier à Breaking the Waves en 1996, Grand Prix du Festival de Cannes, qui est sans doute l'un des plus beaux films sur le thème du sacrifice amoureux. Je pense aussi à Dancer in the Dark, film qui obtint la Palme d'Or à Cannes aussi en 2000 avec la chanteuse Björk. Film qui est à la fois un mélodrame, une comédie musicale, un plaidoyer contre la peine de mort et beaucoup de choses encore. Par la suite, Lars von Trier va faire l'étonnant Dogville qui propose à Nicole Kidman d'évoluer dans un décor sans aucun élément et qui va surprendre son public. Par la suite, d'autres films seront très très controversés, comme Antichrist ou comme le tout dernier Nymphomaniac, qui sont des films évidemment que l'on ne peut pas montrer à tout public, et qui, malgré toute la provocation dont ils sont empreints, décèlent à chaque fois de véritables bonheurs pour les cinéphiles. Malgré tout, le film que nous conseillons, même si ce n'est pas un film danois à proprement parler, dans la filmographie récente de Lars von Trier, c'est Mélancolia en 2011, qui s'ouvre et se ferme sur le Tristan et Isolde de Wagner, et qui est à ce jour un des plus beaux films sur l'apocalypse qui ait été tourné. Le second maître du cinéma danois actuel s'appelle Nicolas Winding Refn. Il est plus jeune que Lars von Trier puisqu'il est né en 1970, mais son œuvre est d'ores et déjà une œuvre qui marque le cinéma contemporain. Ce fils d'un monteur, Monsieur Refn, et d'une photographe, Madame Winding, s'est d'abord fait connaître dans le petit monde du cinéma danois par des films d'une certaine violence, comme Pusher, comme Bleeder. Pusher qui a d'ailleurs eu deux suites, qu'il a lui-même réalisées. Puis par Bronson, avant de réaliser un film tout à fait étonnant qui met en scène Mads Mikkelsen, qui est un très grand acteur danois et mondial. Ce film étonnant, c'est Le Guerrier Silencieux, initialement intitulé Valhalla Rising. C'est après Le Guerrier Silencieux que la notoriété s'abat brutalement sur Nicolas Refn, puisque en 2011, c'est Drive qui frappe au Festival de Cannes. Le film va obtenir un prix de la mise en scène. Son film suivant sera tourné avec le même acteur qui bénéficie lui aussi de cette révélation, un certain Ryan Gosling. Le titre de cet opus sera Only God Forgives et il semble bien qu'à partir de là, les spectateurs de Nicolas Refn se divisent en deux camps. D'un côté, ceux qui voient l'œuvre d'un grand maître contemporain, quelqu'un qui travaille à la fois sur la valeur expressive du cinéma, notamment sur la couleur, quelqu'un qui travaille sur le statut du personnage, et puis de l'autre côté, ceux qui trouvent ces films tape à l'œil et sans consistance. Ce n'est pas le film suivant, The Neon Demon, qui va changer les choses, puisque sa description du monde de la mode, perçue à travers le personnage incarné par la jeune Elle Fanning, paraît encore une fois radicaliser son propos. Quoi qu'il en soit, le monde de Refn, très inspiré par la culture pop et le pop art, reste l'un des plus fascinants qu'il nous soit donné à voir aujourd'hui au cinéma. Nous retrouverons son œuvre, bien entendu, à l'occasion du festival Regard d'ailleurs. Pour conclure ce premier numéro de Cinémac de l'année, je vous propose de parcourir la BO du film Pusher avec un titre de The Prisoner qui s'appelle Unhole. Le cinéma de Nicolas Winding Refn, ce sera pour bientôt à Dreux. Bonne semaine.